Alors, merci Geneviève, merci pour l'invitation. J'ai passé vraiment deux journées très stimulantes et pour la première fois dans ma vie, mes deux amours sont réconciliés, c'est-à-dire la pédagogie et la technologie dans le même lieu, ce qui est très rare, je dois vous dire, puisque je pense que c'est la première fois qu'il y a des journées scientifiques qui s'appellent pédagogie universitaire numérique. Et je salue ce démarrage et j'espère que il y aura bien d'autres travaux dans ces perspectives. Alors l'agenda qui m'a été confié, vous rendez bien compte qu'il est difficile. J'ai quand même préparé ma conférence à l'avance parce que si je m'étais limitée à écouter, ça aurait été très intéressant, mais je n'aurais pas assez de capacité de synthèse, de compétences de synthèse pour arriver à rendre toute la richesse des débats. Donc je vais essayer de reprendre deux objectifs de ces journées. Il n'y en a pas que deux, mais deux parmi les objectifs qui étaient annoncés. C'est au fond de voir quelle est la place des recherches qui ont été menées jusqu'à présent par rapport aux pratiques des personnes qui travaillent dans les équipes, soit de pédagogie universitaire, soit de nouvelles technologies ou technologies de l'éducation, et puis essayer d'ouvrir des perspectives pour la recherche, avec bien entendu un point de vue qui ne va pas être exhaustif, mais dans ces perspectives pour la recherche, et essayer d'intégrer aussi ce qui a été dit, ce que j'ai pu conserver, garder de ce qui a été dit durant ces journées. Bien sûr, ça pourra être complété ensuite par la suite. Alors une petite image. Alors je vous rassure, j'ai fait un choix aussi de pas mettre beaucoup de texte, de mettre beaucoup d'images. On est à la fin de deux journées et donc cette présentation, elle va être plutôt, je dirais, justement pour baliser que pour approfondir les thèmes. Hein. Donc c'est un choix. Alors ici, pourquoi cette image? Eh bien parce que moi, j'avais l'impression d'être à la croisée des chemins, mais c'est peut-être moi dans ma carrière, en tout cas à la croisée des chemins par rapport aux recherches que l'on peut mener dans le domaine de l'utilisation des technologies pour l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et c'est une question que je vous pose, c'est une question à laquelle Brigitte Albero a déjà répondu en disant « mais il faut changer de perspective ». Est-ce que c'est bien vrai? Moi, j'aurais tendance à appuyer son point de vue, mais c'est une question qui reste ouverte. C'est une question que j'ai posée à Geneviève Jacquinot, qui a bien voulu accepter de répondre à mes questions pour un court entretien qu'elle nous a accordé dans le cadre du livre « Apprendre avec les technologies » avec France Henry, qui vient d'être publié aux presses universitaires de France. Je reprends juste la fin de sa réponse. Ce dont on a besoin actuellement pour sortir des approximations sur les effets supposés, négatifs ou positifs, des technologies de l'intelligence, c'est de travailler ensemble pour mieux appréhender ce que j'appellerais l'intimité des pratiques. On apprend plus en regardant dans le détail comment les enseignants, les élèves bricolent en utilisant les technologies. Cela demande certes beaucoup de temps, mais aussi des équipes constituées sur le long terme et avec des moyens. Et sincèrement, je partage le point de vue de Geneviève Jacquinot et c'est vers là que moi je voudrais aller, si j'ai la chance de recevoir les subventions qui me permettront de le faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le plan quand même de la présentation, donc en quatre temps, où je vais vous proposer effectivement un retour en arrière sur les recherches en technologie de l'éducation pour essayer d'interroger leur impact sur l'évolution des pratiques. En général, on peut aussi interroger nos pratiques à nous parce que j'en suis des personnes qui sont aussi dans les centres didactiques ou de support aux utilisations des technologies. Deuxième temps, essayer de questionner aussi quel est l'impact de l'évolution des pratiques sur nos recherches. J'essaierai de vous montrer que, en fait, si on est à la croisée des chemins, c'est aussi parce que les pratiques sont souvent devant nous. Avant, la recherche créait un petit peu les pratiques. Moi, j'ai plutôt l'impression que maintenant, surtout les pratiques des étudiantes et des étudiants, eh bien, elles nous échappent et qu'on a bien besoin, justement, de les étudier. Je ferai une petite pause courte, mais qui, à mon avis, est indispensable sur les apports des recherches en pédagogie universitaire, parce qu'à mon avis, ils peuvent vraiment nous aider à enrichir nos travaux, et puis ensuite ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, recherche en technologie de l'éducation, évolution des pratiques, France Henri a rappelé ce qu'est l'ingénierie pédagogique, la technologie de l'éducation, comme on l'a définie, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est quand même une définition assez partagée, concerne l'analyse, la conception, l'évaluation des ressources et dispositifs, ressources matérielles, ressources humaines, pour supporter l'apprentissage humain. Donc, ça existe depuis la technologie de l'éducation comme domaine a été développé après la Seconde Guerre mondiale, je dirais plus ou moins. Donc, recherche en technologie de l'éducation et évolution des pratiques. De quoi parlons-nous ? Je viens de faire une proposition rapide par rapport à ce qu'est la technologie de l'éducation. De quelles pratiques parlons-nous ? Moi, je pense que c'est important de se demander, on a tout le temps parlé des pratiques, est-ce qu'elles changent, etc. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, il faut d'abord savoir à quel niveau on réfléchit. Il y a bien sûr les individus, les enseignants, les enseignantes. Il y a les dispositifs et il y a aussi les institutions. Et on peut regarder effectivement ces changements à différents niveaux. On peut aussi se demander de quelle recherche on parle. Et je reprends ici une typologie que l'on a risquée, on va dire, avec France-Henri et Daniel Paraya, quand on a essayé de classer les recherches sur les forums. Je l'ai réappliquée de manière plus générale parce que je trouve ça assez intéressant. Comme distinction, c'est assez facile, on va dire, en distinguant les recherches sur les pratiques d'usage numérique dans l'enseignement supérieur, qui seraient des recherches au fond détachées de l'investissement, de l'engagement direct dans la pratique, et qui essaient au fond de les décrire, de les observer. Les recherches avec, qui quelque part, elles ne portent pas sur l'usage des pratiques numériques directement, mais qui se demandent quels sont leurs effets sur, au fond, d'autres dimensions en dehors de ces pratiques. Alors, ça peut être sur l'innovation, ça peut être sur l'amélioration de l'apprentissage des étudiants, sur la formation des enseignants, des enseignantes, etc. Et puis, les recherches pour, c'est-à-dire les recherches où on essaye vraiment de développer de nouvelles technologies, soit ou solutions technologiques, soit de nouveaux dispositifs. Alors, pour chacun de ces types de recherches, vous voyez, brossés très largement, on peut se demander quels sont les effets éventuellement sur les pratiques de manière générale. Alors, ce que j'ai risqué, parce que ça m'a fait plaisir de relire Jonassen récemment, qui est un auteur également connu, des pseudo-recherches sur, en faisant référence en fait aux recherches qui ont été menées maintenant, il y a parfois plus de 30 ans, 40 ans, mais qui ont encore des réminiscences et qui portent sur les usages et technologies dans l'apprentissage et l'enseignement, en posant généralement la question, mais est-ce que, par exemple, des cours qui utilisent Moodle seraient plus ou moins efficaces que des cours qui n'utilisent pas Moodle ? Est-ce que des cours qui utilisent la télévision seraient plus ou moins efficaces que des cours qui n'utilisent pas la télévision ? Vous voyez où je veux en venir. Et en réalité, ce type de modèle avec groupe expérimental, groupe contrôle, même s'ils se sont sophistiqués, et heureusement, encore qu'ils ne sont, il y en a qui ne sont pas encore sophistiqués, hein. J'ai réussi à en trouver pour les faire critiquer par mes étudiants, et donc il en existe toujours, qui sont publiés avec ce modèle-là, avec des résultats évidemment so what, ça veut dire que en général on trouve pas de différence significative. Alors ce site-là, No Significant Difference, reprend chaque année les recherches qui utilisent ce paradigme et fait une synthèse comme ça, ce qui permet en fait de voir à la fois les résultats positifs et négatifs. Pourquoi, mais ça, je veux dire, on va pas faire un cours de méthodologie ici, mais il y a quand même des choses qui reviennent dans nos discours, souvent des confusions. Confusion entre quoi ? Si on dit, bon, est-ce qu'un cours avec Moodle est plus ou moins efficace qu'un cours sans Moodle ? On ne dit rien du tout des usages de la plateforme. Et vous savez le nombre de possibilités d'usages possibles ou de scénarios possibles. On ne dit rien du tout du contexte, de ce que l'enseignant a fait. On ne dit rien de la préparation des étudiants. Donc, il y a une série, en fait, de, je dirais, d'oubli, de non-prise en compte de dimensions dans l'analyse de ces phénomènes. Est-ce que ces recherches ont eu un impact sur nos pratiques ? J'étais en train de me dire, bah oui, c'est ça la question, donc c'est important d'essayer d'y penser. Alors, pas, je pense pas directement sur les pratiques, par exemple, des personnes qui travaillent dans les centres, mais indirectement, je vais vous dire que oui, mais plutôt chez les décideurs, sans doute, parce que quand il y a une enquête positive ou un résultat positif, on va s'en emparer pour dire il faut investir, etc. Ou l'inverse, pour freiner un peu les investissements sans forcément questionner toujours justement les bases méthodologiques de ces recherches. Pour nous, dans les pratiques, je pense que ça, dans les centres, ça a eu relativement peu d'impact, parce que heureusement, il y a aussi des chercheurs très tôt qui ont dénoncé ce type de recherche, pour ne pas citer Jean Donnet. Mais quand même, pour les membres des équipes, moi-même, je me suis fait poser la question souvent. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus efficace ? Est-ce que vous pouvez me dire, etc. Et là, on est quand même embêté, parce que ces recherches-là ne nous disent pas grand-chose. On ne peut pas vraiment en tirer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre recherche, alors intéressante, qui apporterait des réponses ? Les recherches que j'appelle sûres, mais qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire qui portent vraiment sur les caractéristiques et les apports des médias en tant que médias, c'est-à-dire en tant qu'outil cognitif ou en tant qu'instrument. Alors, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Alors, monsieur Winkin n'est plus là. En fait, ce sont des DIA qui ont été reprises à une formation de l'Université de Liège dans les années 75, où, en fait, les pauvres étudiants en psychologie devaient apprendre à reconnaître, au fond, à dater les crânes qui leur étaient proposés à l'examen. Et, en fait, les technologues de l'époque, alors c'est Dieudonné Leclerc, Jean Donnet, etc., avait imaginé un support à l'apprentissage des étudiants qui applique un principe qui est la supplantation. Alors, la supplantation utilise un des apports spécifiques des médias, surtout des médias animés, ici de la télévision, pour prendre en charge, donc supplanter une opération mentale chez la personne qui observe, au fond, la séquence filmée qui leur est proposée. Donc, en fait, l'assistant là-bas ou le tuteur montre à l'étudiant comment, mentalement, il va devoir faire tourner le crâne pour repérer un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de le dater. Et donc, ce support de la supplantation est vraiment un des apports des recherches très intéressants. Un des auteurs principaux, c'est Gabriel Salomon, que j'ai aussi interviewé pour l'ouvrage aux Presses universitaires de France. Quand je lui demandais, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait toujours utiliser ce concept dans les recherches ? Il me dit oui, évidemment. Je lui demande pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Les chercheurs ne lisent pas. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui a été publié il y a 30 ou 40 ans et que je trouve toujours très, très intéressant comme concept et comme phénomène à étudier et à utiliser. On va y venir. Évidemment, d'autres recherches sûres qui sont spécifiques et qui sont dans la même catégorie, c'est bien sûr le travail sur alors de manière plus générale, là on est parti de la télévision, mais les technologies de l'information et de la communication comme outil cognitif. C'est vraiment comme outil de pensée, on est dans la prolongation du concept de supplantation. Bien sûr, dans une autre perspective, on peut aussi utiliser des concepts comme les concepts d'instruments, de systèmes d'instruments, qui vont alors, eux, faire intervenir encore plus les apprenants, l'apprenant ou les groupes d'apprenants, qui, eux, vont, au fond, quelque part s'approprier progressivement les artefacts qui sont les logiciels, les supports symboliques ou les supports de cours qui leur sont offerts et qui peuvent, s'ils deviennent de bons chefs d'orchestre, on va dire, en constituer des instruments. On peut aussi, je l'enlève, je le mets, le mot innovation. Alors, pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a des recherches sur l'innovation comme objet spécifique et qui valent la peine. Hein, et donc, qui, elles, apportent des informations utiles sur la pratique. Pourquoi j'ai mis « utile » avec un peu d'effort ? Parce qu'en réalité, je pense que ces recherches sur, donc qui parle de la supplantation, sur la notion d'outil cognitif, de genèse instrumentale, d'innovation. En fait, elles deviennent utiles pour nos équipes, pour nous, à partir du moment où on en fait justement des instruments cognitifs. C'est-à-dire que la supplantation, c'est pas pour jouer les anciens combattants, mais quand on décidait de faire un scénario pédagogique sur un phénomène qui nécessite une simulation, on allait chercher la supplantation parce qu'on connaissait. Je veux dire, on va utiliser des apports spécifiques des médias pour supporter les apprentissages. Et ça, les concepteurs pédagogiques, au fond, bien sûr, ça fait partie de leur professionnalité. La recherche ne va pas donner directement les réponses à quels médias utiliser, quand, etc. Mais ils donnent des outils pour essayer de repérer quand est-ce que ça va être intéressant. Juste à propos des outils cognitifs, parce que Jonassen continue à travailler sur les typologies d'outils, et je vous ai repris ici, j'ai traduit évidemment, peut-être maladroitement pour certains termes, les propositions qu'il fait à propos de catégories, au fond, d'outils qui sont mis à notre disposition et qui peuvent devenir des outils, des partenaires intellectuels, comme il le dit, pour nous, mais aussi bien sûr pour les étudiants. Je vous signale aussi, je mettrai dans le papier aussi, bien sûr, les références bibliographiques, qu'un ouvrage récent de Christian de Pauvert et Thierry Carsenti, j'oublie peut-être un troisième auteur, mais c'est les deux auteurs que j'ai retenus, utilise vraiment la notion d'outil cognitif en français pour catégoriser les usages de technologies justement dans l'enseignement. Et donc, je pense que ça peut être aussi une perspective intéressante si vous ne connaissez peut-être pas cette publication. Alors, les recherches avec, donc qui essayent au fond de pas regarder le média en tant que tel ou ce qu'apporte la technologie en tant que tel ou l'innovation en tant que tel, mais plutôt ses effets sur des phénomènes qui nous intéressent vraiment et qui sont prioritaires en pédagogie universitaire, qui sont la qualité de l'apprentissage des étudiants, le développement professionnel des enseignants, le développement éventuellement des institutions, les collaborations, les réseaux entre les institutions, etc. Et donc, ce sont des recherches qui vont quelque part, d'une certaine manière, pas forcément être actrices, c'est pas toujours des recherches-actions, mais qui vont quand même essayer justement de comprendre ces pratiques. J'ai renoncé à faire la liste de toutes les recherches de ce type-là, parce qu'il y en a beaucoup, et j'ai voulu insister, parce que c'est important aussi d'être optimiste, je dis les premières recherches sûres, franchement, ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, à mon avis, il y a des recherches qui, pour nous, sont très utiles, ce sont les recherches-évaluations. Pour moi, elles contribuent à la qualité des dispositifs et à leur pérennité, c'est-à-dire à leur durabilité, quand elles sont menées en collaboration. Donc ça veut dire, et on a eu un bel exemple avec une présentation à propos de performance tout à l'heure, la recherche INRP sur performance, où avec conviction, la chercheure a dit, ben on s'est coulé dedans, on a participé aux activités, on a participé aux formations, etc. Donc mener en collaboration, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça prend du temps, ça veut dire de trouver des partenaires dans le projet, ça veut dire de prendre le projet au sérieux, de ne pas le regarder de loin, et vraiment d'en être partie prenante. Souvent aussi, ça je ne sais pas si c'était le cas dans le cadre de performance, ce type de recherche-évaluation, à mon avis, j'ai choisi le terme « fonde le dispositif » parce qu'en fait, elle démarre avant le projet par une analyse des besoins. Et donc, à ce moment-là, l'évaluation, elle est vraiment autant témoin du début, et elle permet au fond de construire le dispositif, l'analyse des besoins, permet de construire le dispositif avec les participants. Elle porte bien entendu des régulations. Hein, quand on prend des rendez-vous, on dit voilà, on va parler de l'évaluation du projet à tel et tel moment. Et bien entendu, ce n'est pas qu'une évaluation, donc c'est aussi une recherche. Et elle apporte une meilleure connaissance sur les processus d'apprentissage et d'enseignement et sur les conditions liées à ces processus aux différents acteurs. Et donc, ça veut dire que si on parlait de transférabilité tout à l'heure, c'est Fulane qui disait ça. Ne me dites pas ce que vous avez fait. Dites-moi les conditions dans lesquelles vous étiez pour faire ce que vous avez fait. Et en fait, ce type de recherche-évaluation, elles vont nous dire ça. Et quand je sais les conditions dans lesquelles l'équipe performance était grâce à ce type de recherche pour faire ce qu'ils ont fait, je peux essayer de vérifier si moi, dans mes projets, je peux essayer, peu ou prou, de remettre en œuvre ces conditions. Et je pense que ça, c'est une condition du transfert intéressante. Donc, pour revenir à nos équipes, les recherches et évaluations, évidemment, elles sont importantes. Et quand on mène des gros projets, pour moi, c'est une condition du succès. C'est-à-dire que si on s'engage dans un gros projet, genre usine à gaz, on a intérêt à avoir une équipe d'évaluation qui travaille sur ce projet. Alors, les recherches pour, vous reconnaîtrez peut-être les pages d'accueil de IA. J'aurais dû reprendre, je me suis dit hier, j'aurais dû mettre EIH 2011 qui va se passer à Mons. Enfin, là, c'est EIH 09. Et j'ai pris aussi la page d'accueil du ECTEL, donc du programme Technology Enhanced Learning de la Commission européenne, où là, en fait, ce sont bien des recherches au fond développement, la plupart du temps, en tout cas. Peut-être EIH en fait d'autres types, mais ECTEL, certainement des recherches développement qui vont essayer de développer de nouvelles technologies, de nouveaux supports, de nouveaux logiciels, de nouveaux services ou éventuellement de nouveaux dispositifs pour améliorer les pratiques. Alors évidemment, ces recherches sont intéressantes, mais à mon avis, elles ont peu d'impact sur les pratiques. Et très sincèrement, je peux vous dire, parce que moi j'en ai fait, donc on peut s'autocritiquer aussi. Pourquoi est-ce qu'elles ont peu d'impact sur les pratiques ? Alors bien entendu, on peut essayer de limiter ces risques. Mais c'est qu'elles sont souvent centrées sur des solutions technologiques, à des besoins pédagogiques peu ou pas analysés. Alors, est-ce que c'est toujours la faute des chercheurs ? Oui et non, parce que les appels, notamment de la Commission européenne, sont des appels pour des solutions technologiques. Et après, les chercheurs doivent se creuser pour trouver des domaines d'application dans lesquels on va trouver des applications. Donc, même s'ils sont très honnêtes, il y a quand même une induction, en fait, de problèmes de ce côté-là. Elles ont souvent été développées par des chercheurs développeurs sans la collaboration des praticiens. Ça, c'est de moins en moins vrai. Hein. C'était dans le passé, c'est de moins en moins vrai, je dirais. Il y a quelque chose qui est toujours vrai et qui est difficile. Elles n'ont pas tenu compte des conditions de mise en place des innovations. Alors là, je vous invite à relire Fulane, parce que pour moi, il offrait, comme on en parlait de configuration et de disposition tout à l'heure, Fulane, dans ses travaux, propose des configurations pour que les innovations, au fond, quelque part, ou en tout cas là, ces nouvelles solutions technologiques s'implantent. Un, il faut qu'elles soient portées par un groupe de personnes. Deux, il faut que, bien sûr, elles répondent à un besoin. Trois, qu'elles soient acceptables, qu'elles aient un niveau de complexité suffisant, c'est-à-dire qu'elles touchent à plusieurs niveaux du système d'enseignement et pas un seul. Et puis, dernière chose, il faut, alors ça c'est pour le porteur de projet, qu'il accepte de revoir ses plans. Donc ça c'est plutôt pour dire « Ah, j'ai pas toujours raison ». Elles ont minimisé, ces recherches, les efforts de développement technologique, ça c'est encore vrai. On termine nos recherches, j'ai entendu plusieurs présentations, je ne peux pas les citer de mémoire, mais encore ce matin, les magnifiques projets européens dans e-content, qui vraiment, pour moi c'est de la dentelle, c'est vraiment superbe au niveau développement, mais quelles questions est-ce qu'on s'est posé sur la maintenance, sur, au fond, le maintien et le développement ? Parce qu'on va arriver à, souvent on arrive à des prototypes, on est très content du prototype et puis le projet se termine. Et puis même les chercheurs qui ont développé eux-mêmes, en tout cas les pédagogues, je ne parle pas des informaticiens, eh bien ils ne peuvent pas l'utiliser parce que c'est inutilisable, quoi. Donc il faut laisser du temps au temps pour que les personnes continuent et utilisent, et elles ont la volonté de le faire, mais à un moment donné elles n'ont plus les moyens. Donc, et puis dernier point, leur diffusion reste très dispersée, limitée à la littérature grise et à des prototypes, comme je le disais. C'est quelque chose qui est regretté. Moi, je pense que si vous allez vers des appels d'offres entre guillemets, hein, puisqu'on en a parlé hier, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte, analyser vraiment les conditions de pérennisation après, parce que sinon, comme disait Brigitte, on continue à refaire les mêmes choses et c'est dommage. Alors, en synthèse, à quelles conditions les recherches ont-elles un impact sur les pratiques ? Mais tenez-vous bien, je ne vais pas répondre à la question, je vous la renvoie. Donc, je vous ai donné quelques pistes. Je pense qu'il faut se poser la question, vraiment. Et je crois qu'on n'a pas, on n'a pas le temps, mais on pourrait très bien là faire un tour de table ou dire, tiens, moi, dans ma pratique, quelle recherche m'a vraiment influencé. On va avoir des réponses sans doute diverses, mais je pense que là, en fait, c'est presque une recherche sur les recherches qu'il faudrait mener, hein, qui serait descriptive. Alors, quand même, il y a des réponses. On vous renvoie, moi, souvent, je fais référence au travail de Michael Huberman sur cette question, parce que dans une de ses toutes dernières publications, il est revenu sur ses propositions de modèles d'articulation entre les recherches en sciences d'éducation, ici c'est plus limité, et les pratiques, mais qui offrent des perspectives vraiment intéressantes. Alors, si on passe au deuxième temps, évolution des pratiques et recherches, donc comme je vous disais, au fond, maintenant, ce sont les pratiques des étudiants et des étudiantes qui nous interrogent. J'aurais pu, et je me suis dit tout à l'heure, ils vont être déçus parce qu'on a beaucoup parlé des enseignants, et j'aurais pu dire les pratiques des enseignants changent. On n'a pas les éléments pour le dire, mais sans doute que oui aussi. Hein. Mais donc, avec, au fond, l'introduction, je vous montrais ma petite merveille, là, iPad, tout à l'heure, l'évolution des technologies est telle, des services gratuits sur le web est telle que, finalement, les étudiants s'approprient ces technologies et, finalement, souvent, sont en avance sur nous. Et je pense que si on regarde la relation recherche-pratique, on peut aussi regarder la recherche-pratique, la relation pratique-recherche, mais cette fois-ci, les pratiques vraiment, réellement mises en œuvre, notamment par les étudiants. Donc, on peut remarquer de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles pratiques médiatiques, de nouveaux modes de production de connaissances, des développements d'environnements personnels d'apprentissage et aussi des critiques des environnements institutionnels. Bon, je vais y passer rapidement. Nouvelles manières d'apprendre, donc des recherches surtout aux États-Unis, assez limitées sur le nombre ici, qui concerne des petits nombres d'étudiants, une quarantaine par exemple, par Dédé qui a publié dans une revue américaine, met en évidence, au fond, de nouvelles manières d'apprendre qui consisteraient à rechercher, filtrer, synthétiser, réaliser plusieurs tâches en même temps. Qu'est-ce qui regarde ses mails pour le moment? Il n'est pas possible, non. Construction de ses propres configurations, donc aussi construction de ses propres modèles en ayant piqué à gauche et à droite, c'est pas mal. Mais parfois, il y a un risque d'approfondissement, d'éparpillement, de manque d'approfondissement, pardon, d'éparpillement, de manque de réflexion. Ça pose quand même des questions, y compris d'ailleurs chez les chercheurs, hein, je pense qu'on est impacté aussi. Nathalie, toujours dans le même ouvrage, notait à l'inverse des démarches actives de recherche, de production, de connaissances, de partage qui profitent aux individus capables de démarches autodirigées. Ça veut dire que pour certains étudiants et étudiantes, évidemment, ces nouvelles manières d'apprendre sont propices et intéressantes, surtout chez les étudiants, au fond, qui ont des intentions très précises. Ça a l'air banal de le dire, mais enfin, les recherches le redisent. Les étudiants qui, justement, savent pas trop où ils vont, ne sont pas dirigés, parce qu'on peut le vérifier par des questionnaires ou des tests, évidemment, vont être davantage perdus encore dans ce monde. Deux nouvelles pratiques, je dirais médiatiques, j'aime bien ce terme-là, parce que une recherche ancienne de Claire Belli sur les pratiques télévisuelles, je ne sais pas si vous la connaissez, ça vaut la peine d'aller la rechercher. Ici, c'est une recherche non pas sur les pratiques télévisuelles, mais sur les pratiques avec, au fond, les services du web social, qui a été réalisé par une équipe dirigée par Ito aux États-Unis et d'ailleurs qui se trouve en ligne. Hein, le rapport est très, très facile à trouver, où en fait elle met en évidence trois grosses catégories. À l'intérieur de ces catégories, il y a des sous-catégories au fond, chez des adolescents, cette fois-ci entre 14, 17, 18 ans, qui seraient hanging out, ça veut dire s'étendre, c'est-à-dire je suis ici à Lyon, mais en même même temps, grâce à mon téléphone mobile, où je suis en contact avec tel ou tel collègue à l'extérieur. Pour les adolescents, ça veut dire être en contact avec mon petit copain nuit et jour, enfin pendant les cours, enfin etc. Ou avec les groupes d'amis, etc. Seeking around, ça veut dire, bah, au fond, je vais chercher à gauche, à droite, piquer les choses qui m'intéressent. Et puis le geeking, c'est vraiment plutôt pour les adolescents qui sont vraiment passionnés par un sujet, par un intérêt, et qui vont quelque part travailler ou être dans un réseau social uniquement sur ce sujet-là. Ça vaut la peine d'aller lire les rapports en profondeur. Nouvelle relation au savoir, là cette fois-ci un travail en français qui a été réalisé pour une fois aussi, messieurs les VP ou mesdames les VP, par une commission de l'Université de Genève. Donc ça veut dire que c'est un travail au niveau institutionnel d'un groupe d'enseignants et de responsables institutionnels qui se posaient au départ la question du plagiat. Et en fait, au lieu de dire ben, on va édicter un règlement en disant voici ce qu'il faut faire, pas faire, etc., qui finalement amène les étudiants à ne plus trop savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas, à plus oser écrire, on va dire, se pose la question au fond, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière de produire les connaissances, mais des connaissances qui vont être validées autrement par les étudiantes et les étudiants. Je m'explique. En fait, en utilisant le réseau, les ressources qu'on trouve sur Internet, en fait, on va valoriser ce qui se répète, ce qui se dit, ce qui est, au fond, redit, réinterprété par différentes personnes qui sont nos pairs. Et on va accorder, quelque part, un poids à un savoir qu'on va appeler un savoir narratif, qui n'est pas validé selon les mêmes codes que les codes scientifiques ou les codes de recherche. Et donc, ça veut dire que ben, ce que Brigitte a dit tout à l'heure à la table ronde, ben, franchement, j'ouvrais tout grand mes oreilles, j'aurais envie de le reprendre, je trouve ça super, les formules qu'elle a utilisées sont super intéressantes. Et donc, si on est dans l'optique de ce savoir qui se dit, se redit, etc., je pourrais me croire, je ne vais pas le faire, bien entendu, autorisé à piquer les mots de Brigitte et à les réutiliser ailleurs. Et en fait, c'est ce que les étudiants font naturellement, hein, sans même savoir que, je veux dire, ici, c'est des citations orales, donc finalement, on pourrait encore le faire. Hein, mais donc, il y a vraiment d'autres manières de constituer, de valider les savoirs. Et donc, il y a une véritable réflexion, bien entendu, à avoir avec eux, hein, là-dessus, à respecter l'origine, le droit des personnes et, au fond, l'origine des idées et des savoirs. Juste pour évoquer, peut-être que ça vous évoquera aussi votre expérience à vous, un petit témoignage d'enseignant qui se trouve aussi dans l'ouvrage, un enseignant qui a été interrogé par Nathalie et qui parle de la manière dont il a changé ses lectures. Donc, nouvelle relation au savoir, accès à des savoirs de nature différente. On préfère maintenant, les enseignants comme les étudiants, préfèrent piocher des extraits plutôt que de lire un chapitre ou un livre entier. Ça, c'est quand même dommage. On espère tous arriver à la retraite pour lire les livres, mais il faudrait quand même le faire avant. Hein. Et puis, la génération, ce sont des citations que j'ai repris à Claire Belli, toujours dans le même ouvrage, c'est inspirateur. La génération Google préfère de la formation rapide, déjà résumée, ne s'intéresse pas au format et a peu d'intérêt pour les contenants d'origine qui leur permettraient de contextualiser l'information trouvée. Donc, un certain nombre de questions pour nous. Autre phénomène qu'on a nommé environnement personnel d'apprentissage, qui est un concept, bien entendu, hein, parce que c'est pas une réalité, c'est une manière de nommer un phénomène qui apparaît. J'ai oublié un « il », mais du point de vue d'un étudiant, et c'est un de mes étudiants. En fait, je leur demande de décrire leur environnement personnel d'apprentissage, et j'ai découvert des choses assez intéressantes, donc je vous laisse lire aussi. Nathalie, c'est le téléphone mobile. Oui, c'est suisse, c'est une marque suisse. Oui. Oui, oui. C'était un des premiers opérateurs de téléphone mobile en Suisse. Alors bon, sur Internet, vous trouvez des représentations métaphoriques des environnements personnels d'apprentissage. Donc ça, c'est quelqu'un qui représente le sien. Hein. Donc avec le blog, le e-portfolio, Twitter, Google, YouTube, etc. D'autres manières de représenter les choses. Alors, bien sûr, des chercheurs se sont emparés du concept et surtout des informaticiens. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que ce qui les intéresse, c'est de développer des systèmes de recommandations aux étudiants pour pouvoir les aider à développer leur propre environnement personnel d'apprentissage. Donc, l'idée, c'est qu'ils sont construits par un individu pour atteindre ses propres buts, qu'il appartient à l'étudiant ou à l'apprenant, qu'il est flexible, c'est-à-dire qu'il change, qu'il est ouvert, dynamique. Donc qui va évoluer dans le temps et qu'il étend la portée, en tout cas potentiellement la portée de l'expérience d'apprentissage, puisqu'il peut faire des liens entre des activités vécues au niveau institutionnel avec des activités au niveau des loisirs, etc. C'est potentiel, bien entendu. Il y a aussi des critiques des environnements institutionnels. Cette petite DIA-là, c'est une DIA qui a été prise dans une école doctorale où on avait créé un fil Twitter. Et donc, les étudiants, les doctorants qui assistaient aux conférences comme la mienne, là, pouvaient se poser des questions, critiquer, envoyer des informations à d'autres pendant que la conférence avait lieu. Je me suis dit que c'était une image assez évocatrice parce que, en réalité, les environnements institutionnels, comme on les prévoyait, on les voyait dans le temps, je dirais, ne sont plus, même si on le veut, si on veut fermer les portes, empêcher l'accès au Wi-Fi, il y a des gens qui ont les clés 3G. Et donc, les environnements institutionnels sont critiqués ou mis à mal. Alors, quelles sont les critiques? Quelque part, c'est que les environnements qui sont... Ça, c'est une image d'un espace Moodle dans mes cours, je pense. Donc, c'est classique. C'est que ces environnements sont fermés. C'est qu'ils reprennent une logique assez industrielle où tout est prévu, planifié d'avance. Ils sont aussi parfois en rupture avec les conceptions épistémiques des étudiants. Alors c'est assez curieux parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois c'est des environnements trop innovants. On l'a vu avec les travaux de France ce matin, à la présentation de France ce matin, sont tellement en rupture avec les représentations que les étudiants ont à propos des constructions des connaissances, parce qu'ils en ont aussi, que finalement ils ne sont pas acceptables ou acceptés. Mais ça peut être l'inverse aussi. On peut avoir des environnements qui ne correspondent pas, par exemple, qui sont trop fermés et qui ne permettent pas aux étudiants de faire les liens avec des projets pratiques, leurs stages, etc. Maintenant, je peux en venir, je pense. Alors, pourquoi je vous ai présenté tout ça? Parce qu'à mon avis, ces nouvelles pratiques vont nous offrir de nouvelles perspectives de recherche, qui sont des perspectives justement de recherche plus descriptives à grande échelle, qui sont moins des recherches intervention, moins des recherches développement, puisque les développements sont faits par les étudiants. Et c'est pour ça que je vous présentais ça, pour justifier quelque part quelques nouvelles avenues de recherche qui me paraissent intéressantes. Mais avant ça, je voudrais vous parler brièvement des apports des recherches en pédagogie universitaire. J'ai repris un apport tout récent, j'aurais dû mettre son nom, parce que j'ai fait la DIA hier soir, je mettrai pour la diffusion sur le site. C'est Jean-Marie de Quetel qui a présenté, décrit comme ceci le champ de la pédagogie universitaire dans le numéro tout récent de la revue française des sciences d'éducation, revue française de pédagogie, pardon. En fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il montre que la pédagogie universitaire concerne un champ complexe et large. Il concerne le curriculum, il concerne les activités pédagogiques en classe, en dehors de la classe, des enseignants, des étudiants, les évaluations, évaluation des apprentissages, et aussi tout ce qui concerne l'évaluation, la mesure de la qualité, les résultats. Il prend en compte aussi les facteurs externes, politiques, sociaux, culturels, économiques, et donc des travaux qui ont été présentés hier, la synthèse de la littérature qui a été présentée hier soir, rentrent tout à fait dans les travaux, bien entendu, de pédagogie universitaire et sont indispensables. Elle prend aussi en compte les contextes académiques, le contexte étudiant, la vie de l'étudiant. Ce que je vous ai dit à propos des environnements personnels d'apprentissage, je dis mais qu'est-ce que ça a à voir avec la pédagogie universitaire? Eh bien oui, ça a à voir avec la pédagogie universitaire parce que ce sont les pratiques des étudiants qui nous intéresse, même en dehors de ce qui se passe dans les universités. Il envisage une dimension diachronique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les processus du curriculum aux résultats, et aussi cette dimension synchronique, c'est-à-dire pas seulement l'activité didactique dans la classe, mais aussi l'ensemble du système. Ce qui veut dire évidemment que c'est difficile de se dire spécialiste de pédagogie universitaire. On est spécialiste d'un bout de la pédagogie universitaire. Simplement, comme c'est un domaine assez récent, on est encore un domaine très, très généraliste, on va dire. Et c'est pour ça que les journées sur la pédagogie universitaire numérique offrent un endroit de spécialisation, on va dire. Alors, je trouvais aussi très intéressante la question d'Isabelle Chenry. Je n'ai pas pu prendre exactement, donc je l'ai pris au vol, je l'ai transformé, je pense. Mais je pense que l'idée était de dire qu'il fallait poser des questions spécifiques partant d'un point de vue pédagogique et non technologique. Dans nos centres, et par exemple comment aider les enseignants à interroger leurs besoins pédagogiques, prendre en compte le point de vue des étudiants, proposer des dispositifs pertinents et les réguler. Et il me semble que là, les travaux de pédagogie universitaire apportent des éléments de réponse intéressants. Alors, c'est un schéma assez complexe, je vais essayer de le faire découvrir assez rapidement, mais pour moi, il est révélateur en fait de ce que la pédagogie universitaire peut nous apprendre. D'abord, elle nous invite, et depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, à prendre en compte le point de vue de l'étudiant, de l'étudiante. Et donc, dans ce modèle que j'ai adapté de Bix et aussi d'Enwissel, qui sont des auteurs anglo-saxons, on va reprendre des résultats de recherche qui ont essayé de comprendre, au fond, dans quelles conditions est-ce que l'étudiant va développer un apprentissage effectif, un apprentissage en profondeur. Et on va prendre en compte d'abord le rectangle supérieur, toutes les caractéristiques individuelles des étudiants, donc leur expérience d'apprentissage antérieure, tout ce avec quoi ils viennent dans nos salles de cours, dans nos dispositifs à distance, leurs compétences métacognitives, plus ou moins développées, leur conception de l'apprentissage. Là, on en avait identifié 6 différentes, qui sont des conceptions relativement stables et qui vont déterminer leur manière d'apprendre, au moins partiellement. Et bien entendu, les connaissances préalables, les prérequis, leur préparation à l'apprentissage, leur connaissance donc des méthodologies, notamment la préparation à l'entrée à l'université dont on parlait hier, leurs intentions, c'est-à-dire leurs projets, soit des projets professionnels, des projets académiques, et la connaissance que l'on a ou qu'on n'a pas de ces projets. Et on pourrait encore ajouter des 3 petits points derrière les caractéristiques individuelles. On voit que dans le schéma, on propose une interaction entre ces caractéristiques individuelles et ce qu'on appelle les approches d'apprentissage, d'une part, et les représentations des environnements et représentations des connaissances qui sont offertes au niveau soit de l'institution, soit en dehors. C'est moi qui ai adapté en disant des environnements, parce que là, on peut prendre en compte les représentations des ressources technologiques, des environnements personnels d'apprentissage, si on veut utiliser ce concept-là, et des environnements mis à disposition par les institutions. Les approches d'apprentissage, elles, au fond, quelque part, représentent la manière dont l'étudiant va aborder la tâche. Il va, au fond, en ayant une combinaison qui détermine l'approche par les buts qu'il poursuit, par le type de motivation qu'il poursuit et par les conceptions de l'apprentissage, il va vraiment, quelque part, se mettre dans une disposition particulière par rapport à une situation. Normalement, on pourrait mettre dans le rectangle en dessous, au fond, sa propre étude. Ici, moi, je pense qu'on peut considérer, du point de vue de la pédagogie universitaire numérique, l'impact de l'approche d'apprentissage ou de nouvelles approches sur la manière dont l'étudiant conçoit, développe les environnements, les associe entre eux, utilise les ressources, les artefacts, construit des instruments. C'est-à-dire se demander comment l'étudiant va faire du design in use, du design en usage, à partir de toutes ses caractéristiques individuelles et de son approche qui est constituée de ses caractéristiques individuelles et de la manière dont il va se représenter les environnements qui sont mis à sa disposition. Bien entendu, les enseignants, les pairs, les développeurs sont là parce que, quelque part, je les ai mis plus en grisé parce que ça me concerne, j'ai repris des schémas pour mes propres recherches, je ne prends pas ça en compte dans mes recherches, mais bien entendu, c'est aussi des objets possibles où on va essayer d'aller comprendre les interactions entre les conceptions épistémiques, les conceptions d'enseignement et d'apprentissage des pairs, des enseignants et des développeurs sur les environnements offerts et sur la manière dont l'étudiant conçoit ses propres environnements, etc. Et donc on voit, alors je vous ai fait une présentation très rapide, mais en fait, là, derrière, et derrière chaque case, il y a chaque fois 10 ou 15 publications, hein, avec des travaux qui sont repris, surtout dans le monde anglo-saxon, et qui nous offrent à la fois des outils, des perspectives au niveau des recherches. Maintenant, pour la conclusion, si on se pose des questions, bon, de nouvelles questions, mais franchement, ce n'est pas exhaustif. On peut se demander donc quelles sont les pratiques ou les nouvelles pratiques de nos étudiants, quelles compétences voulons-nous développer chez eux. On n'en a pas du tout parlé, ça, c'est assez étonnant. Si on fait de la pédagogie universitaire, c'est quand même pour aussi atteindre un certain nombre de buts chez les étudiants. Et la question des compétences, du développement des compétences, du lien avec le monde professionnel, de l'employabilité, etc., sont des questions qui mobilisent beaucoup aussi la pédagogie universitaire. Quels risques voulons-nous éviter ? Parce que si on s'en va trop vers les technologies, si on ne prend pas en compte les difficultés des étudiants, justement, qui n'utilisent pas naturellement ces dernières nouvelles technologies, qu'est-ce qui va se passer ? Quels risques est-ce qu'on veut éviter aussi par rapport à la qualité des connaissances et des savoirs que l'on veut proposer au niveau universitaire ? Là, on a besoin de nos collègues parce qu'ils ont leurs propres critères, parce qu'ils n'ont pas forcément le nôtre. Et puis, quelle opportunité voulons-nous saisir pour le développement de nos dispositifs ? Et donc, à mon avis, j'ai repris la proposition de Brigitte d'hier. Pour pouvoir aborder ces questions, il faut décrire et comprendre les spécificités de l'activité humaine et agir en conséquence. Donc il faut pouvoir passer par une compréhension de l'activité humaine naturelle, je dirais. Je continue avec les perspectives et là j'ai repris un certain nombre de choses qui ont été dites. Donc là, c'est pas Brigitte, je la cite, hein. Donc ça va pour une recherche qui traite des problèmes de fond et qui contribue à enrayer le mouvement qui nous mène à répéter les erreurs du passé. On a besoin, à mon avis, d'un cadre descriptif commun. On utilise beaucoup de termes, on utilise les termes modèles, dispositif, et ça ne veut pas dire la même chose dans nos mots, accompagnement. On a besoin d'un cadre théorique transdisciplinaire, on nous le demande. Et je peux vous assurer que quand vous déposez des projets de recherche, c'est costaud, hein, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en interdisciplinarité, parce que tout seul, on n'y arrive pas. On a, à mon avis, besoin d'études descriptives à grande échelle. Donc, quelles sont vraiment les pratiques de nos étudiants et des enseignants ? On doit contribuer à une approche sociotechnique qui ne disjoint pas artefacts, activités, environnement. Ça, c'était une des propositions de Brigitte. Produire des concepts et des modélisations susceptibles d'accompagner un changement de pratique et de culture d'action. Donc, au fond, que les résultats des recherches nous aident à penser les pratiques plutôt qu'à les prescrire. Et la proposition de France, l'ingénierie pédagogique comme moyen pour faire un lien entre recherche et pratique. On ne l'a pas trop laissé terminer, mais moi, je pense que c'est une piste intéressante pour les équipes. C'est-à-dire de s'emparer de l'ingénierie pédagogique et se demander si ce n'est pas vraiment un lieu où on peut réexploiter, comme j'ai pris l'exemple de la supplantation, certains résultats de recherche, même anciens, pour pouvoir proposer de nouveaux dispositifs ou de nouveaux modes d'accompagnement. Du point de vue de la formation des enseignants, là, j'ai repris Isabelle Chenry. Alors, en transformant, j'ai mis équipe, puisqu'il y avait un intervenant qui a dit « vous n'avez pas parlé d'équipe », et je pense que c'est vrai, elle l'a repris, elle était d'accord. Aider les équipes d'enseignants à interroger leurs besoins pédagogiques, etc. Il est aussi possible, du point de vue des enseignants, mais c'est vrai que c'est assez rare, mais c'est quand même utile de signaler, de développer une recherche sur l'enseignement et l'apprentissage, le fameux Scholarship of Teaching and Learning. Certains de mes collègues le font, et donc il y a des outils, les portfolios d'enseignement, les blocs, où justement les enseignants peuvent faire état de ces recherches, mais ce n'est qu'un support parmi d'autres. Et pour la formation des étudiants, mais là je pense qu'il faudrait vraiment développer la liste. Évidemment, développer des supports et des espaces d'échange sur leur manière d'apprendre avec les technologies. Quand vous les faites parler, vous ouvrez, des grands yeux, quoi. Vous savez pas ce qu'ils font. Hein. Vous savez pas qui vous enregistre et qui vous réécoute dans le bus. Bon, peut-être que ça vous ferait réfléchir un peu. Je sais pas. Donc, c'est intéressant de discuter avec eux là-dessus et développer des supports et outils à la conception et développement des environnements personnels d'apprentissage par les étudiants. Mais c'est vraiment des supports à la réflexion métacognitive, des supports de recommandation, puisque l'idée n'est plus de développer nouveaux services. Ils sont là, ils sont développés par d'autres que nous et souvent beaucoup mieux, hein, puisqu'ils ont les moyens de dépasser le stade du prototype, mais plutôt d'aller vers des supports à la réflexion et au design de ces environnements. Voilà.